fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aimait un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily, au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras.
Vous êtes sur Radio Libertaire, en direct, 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste.
Le Ferry Club, bonjour à toutes et à tous. Rencontre avec Francis Vuillet.
La Radio Libertaire, 89.5.
Oui.
La nuit, c'est ma copine, depuis tu l'as revernie. Rappelle-toi, ma petite mine, ce bistrot de Paris. Où je t'ai prise dans mes bras, sans même te dire veux-tu. Ces choses-là, ça se dit pas, ça se fait, n'en parlons plus. On dit que la nuit est blanche, quand on y voit du noir. Au barbac, il y avait Blanche, qui nous vendait le bonsoir. La Seine, c'est notre perno, nos yeux vont s'y saouler. C'est pas qu'on se fout à l'eau, mais c'est bon d'y penser. Quand on est à chercher le pourquoi, le comment de nos vies embrassées autour de tant de boniments. On dit que la vie est rose quand on la voit comme ça. Faut bien dire quelque chose, sinon on dirait quoi. Quand on roule dans la nuit comme ça, au pif moi ça, à chercher dans Paris des trucs et des javas. Moi je pense à la mer qui vient et puis qui va, et je me dis que sur terre on ne sait pas où l'on va. On dit que le ciel est bleu, Gagarine dit pas ça. Il dit que la terre est bleue, allez savoir pourquoi. On passe nos nuits à l'as, en attendant quoi donc. Que tout passe et tout lasse, comme dit la chanson. À Paris, y a du spleen qui pousse des pavés. Et c'est ça, ma petite mine, qu'on se tue à faucher. On dit qu'on broie du noir, mais peut-être qu'on déconne. Et puis, nos petites histoires, ça fait tort à personne.
Le Ferré Club, votre tranche hebdomadaire de Léo sur Radio Libertaire 89.4 FM que vous écoutez également sur www.radio-libertaire.org et en DAB+. Bonjour à toutes et à tous. Il m'arrive de passer des appels proposant aux auditeurs et auditrices de l'émission de venir autour du micro pour nous parler de leur Léo. J'ai une certaine chance, depuis quelque temps, ces appels semblent être entendus. Alors j'ai une autre chance, c'est vrai, j'ai des amis qui relaient ces appels. Et en l'espèce, c'est Jean-Baptiste Foulquier, auteur, compositeur et interprète et invité récurrent de l'émission, que vous connaissez forcément, qui a fait part autour de lui de cet appel. Et il y a quelques semaines, il m'a dit avoir proposé à un de ses amis, et cet ami c'est toi, Francis Vuillet, bonjour.
Bonjour, d'avoue.
Est-ce que je prononce bien ton nom, Vuillet ?
Très bien.
Parfait.
Exactement ça.
Eh bien, tu es un ami de Jean-Baptiste, tu es également un amateur de l'œuvre de Léo. Mais je vais commencer par te présenter l'individu que tu es aux auditeurs et éditrices. Est-ce que je peux dire que tu es comédien, que tu es écrivain ?
Alors les deux, et d'autres choses. Moi, je suis un homme très chanceux qui arrive à avoir plusieurs vies, non pas en parallèle, mais qui se tissent et qui s'alimentent l'une et l'autre. Donc une vie... assez classique, c'est-à-dire d'employé, d'un métier que j'adore, que j'exerce de moins en moins, c'est-à-dire que je peux maintenant l'exercer à temps partiel. Mais jamais je n'ai renoncé à la création. Au départ, comme tu le disais, moi je viens du théâtre, j'ai commencé... À 9 ans dans mon jardin, et puis après le parcours classique, le conservatoire, j'ai fait du one-man show, donc là j'étais auteur. Et puis après j'ai continué dans le récit, moi j'adore le récit. Et maintenant par contre, quasiment une grande partie de ma vie, là il y a encore une heure avant de venir te rencontrer, d'avoue, j'étais sur mon nouveau roman en train de le poursuivre. Et du coup, ça m'a donné ce que les Anglais, alors je vous rassure, moi je déteste les anglicismes, surtout quand ils sont cache-misère et qui nous font avaler des choses comme modernes, alors qu'en fait, elles sont très pernicieuses et elles nuisent à l'être humain. Mais il y a aussi des mots qu'on peut conserver de l'anglais. Moi, je suis un insider, c'est-à-dire que j'ai vraiment un pied dans une vie classique qui est dans le monde économique de l'entreprise, puisque je suis consultant, je suis chef de projet.
D'accord.
Un métier que j'adore, je suis pas du tout irrité de l'exercer, c'est pas comme si je me disais vivement que je rentre chez moi ce soir pour écrire, en fait c'est pas ça du tout, mais du coup ça me donne un ancrage dans la vie réelle, et après quand j'écris sans que je m'en rende compte, je pense que je reflète beaucoup plus fidèlement que si j'étais dans une mansarde avec des toiles d'araignée partout, en train d'écrire des choses du passé. Donc pour ce résumé, je suis très chanceux parce que je n'ai pas eu à renoncer à quelque chose. J'ai pas eu trop faim, sauf quand je suis arrivé à Paris, comme Léo. Mais je n'ai pas eu à renoncer à des aspects de la vie, en fait, qui s'entrechoquent et qui toutes s'enrichissent.
Et qui s'alimentent les unes les autres, alors, d'après ce que je comprends.
Qui s'alimentent, et puis souvent, par exemple, les gens, ils me disent « Oh là là, mais tu dois t'ennuyer à faire notre métier, quand on sait que... » Alors, quand on sait que rien du tout, hein, moi, j'existe pas, moi, je fais un one-man show parce que j'ai envie de partager, parce que je trouve que faire rire les gens, c'est vraiment un don du ciel. Ah, moi, un rire, ça y est, ça a fait ma journée, quoi. Mais pour moi, c'est pas du tout contradictoire. Les choses, en fait, s'interpénètrent. Léo s'est retrouvé sur une séquence de sa vie chez Barclay. C'était quand même la rencontre de deux mondes, quoi. Le monde d'Eddie Barclay, qui signait Mireille Mathieu en même temps qu'il avait Léo Ferré dans son écurie. Pour moi, c'est pas du tout contradictoire, quoi.
Oui, monsieur.
Ouais.
Bien sûr.
Donc voilà, je suis un homme heureux, d'avoue. Et je suis encore plus heureux d'être parmi vous parce que j'aime tellement Ferré.
Ah bah parfait.
Oui. Et quand Jean-Baptiste m'a proposé de venir vous rencontrer, mais j'ai pas hésité une seule seconde. J'ai rien demandé. Hein.
Ouais.
Alors tu dis oui à Davou. Et puis.
Eh ben écoute, tu es le bienvenu et je suis vraiment content de te retrouver autour de ce micro.
C'est cool.
Alors c'est vrai que nous étions croisés lors d'un concert de Jean-Baptiste au passage vers les étoiles. Vous connaissez bien Jean-Baptiste et toi?
On s'est rencontrés au XXe siècle, sous Balladur, et on était tous les deux contrôleurs dans un théâtre.
Ah oui,
D'accord.
Et
lequel?
Très gentiment, je me souviens qu'on allait manger ensemble au restaurant universitaire, et puisqu'il était étudiant à l'époque, on s'est tout de suite bien entendu. Après, je pense qu'on s'est perdu de vue, parce que dans notre monde, avec tous les inconvénients de l'hyperconnectivité, on pouvait plus se perdre de vue avant Internet et ces fameux réseaux sociaux. Et on s'est retrouvés il y a quelques années, assez naturellement, je ne sais pas comment, et comme tous les vrais amis, bah, les 25 ans qui avaient séparé... la période de 25 ans pendant laquelle on avait été séparés n'existait pas du tout. Et puis un petit détail comique, c'est que moi, dans mon métier, je travaillais avec une jeune femme extraordinaire, et je ne savais pas que c'était l'épouse de Jean-Baptiste.
Ah, très bien. Ah oui, c'est original. Oui, ouais.
Caroline.
Oui, absolument, qu'on salue et qu'on embrasse par cette même occasion.
C'est ça, ouais, et qui fait des habillages de ses vidéos... et les visuels de ces disques qui sont magnifiques.
Tout à fait.
Et moi, j'admire Jean-Baptiste. J'admire beaucoup de choses chez lui. Alors, il serait là, et il lèverait les bras au ciel. Attends, mais non, arrête. Parce que il est animé de la même foi, la foi qu'il avait. Je me rappelle, il faisait des cassettes à l'époque, quand on s'est rencontrés. Et la foi qu'il avait... elle est intacte. Quand il vient à la maison, qu'on parle musique, j'ai l'impression que c'est le Jean-Baptiste il y a 33 ans. Et ça, mais ça vous donne foi en l'être humain. Entre autres, parce qu'après, nos amis... Moi, je vois un culte à l'amitié. Moi, je suis un ami très fidèle. Donc après, il y a évidemment tout ce qu'on partage ensemble. Mais cet aspect-là, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de dire ça, quoi. Mais cette foi indéfectible. Et quand on s'est rencontrés, là, lors de d'un de ses récitals, j'ai eu les larmes aux yeux, à un moment. Parce que je le regardais animé de cette foi intacte, indéfectible. Une énergie qui n'était pas une énergie décalée par rapport à son âge. C'était un homme qui avait, comme moi, il avait 30 ans de plus par rapport à où on s'était rencontrés. Et je le regardais, je disais, oh, c'est Jean-Baptiste, il est encore là comme ça, et les larmes me sont montées aux yeux.
Ouais. C'est lui, quoi, tu l'as reconnu dans cet exercice.
Oui.
Ouais.
Et ça, je dirais que son ambition, son appétit artistique n'avait pas bougé d'un seul iota. Et ça... ça vous donne une foi dans l'être humain indéfectible.
En dépit de tout, il est resté concentré sur ses envies.
Oui. Oui. Enrichi en plus, parce que je pense qu'entre-temps, et notamment dans son interprétation des poètes, et puis... parce que je ne crois pas que quand on s'est rencontrés, on avait parlé de Léo Ferré. Je ne pense pas. Donc entre-temps, était venu s'ajouter...
cette dimension.
C'est ça, comme Ferré, il y a une chose qui est fascinante, c'est que Ferré, il est pas du tout animé par une vanité d'artiste qui veut se montrer. Lui, c'est un homme de partage dont le verbe est tellement riche, florissant, inventif, sans cesse renouvelé, sans limite d'exploration, toujours d'une qualité immense qui nous éveille. Il laisse la place en tant que passeur à des gens qui avaient exactement en fait le même foisonnement. Donc c'est assez notable. Alors, oui. Bien sûr que tous les artistes ont des artistes préférés. Moi, en tant qu'auteur, je suis avant tout un lecteur. J'ai toujours lu. Alors, il y a des moments où on le cache, nous, les gens de la création, parce que la beauté de la création, c'est de faire croire aux gens qu'ils pourraient très bien faire, qu'ils auraient juste en 5 minutes, ils pourraient écrire mon livre. Et en fait, bien entendu, la réalité est tout autre. Et comme disait Brel, travail plus travail plus travail.
C'est un point commun que je mettrais bien entre Jean-Baptiste et Léo. Et je veux bien t'ajouter, même si je ne connais pas la façon dont tu travailles, mais c'est qu'au-delà du talent, ce sont deux personnes, pardon aux auditeurs et auditrices qui vont trouver la comparaison un petit peu audacieuse, mais il y a cette réalité-là. Dans leur démarche, il y a beaucoup de travail.
Oui.
que c'est pas uniquement en claquant des doigts comme ça et puis en laissant exprimer un talent qui viendrait dans de ses ou. Il y a aussi la discipline devant la page blanche. Et c'est important, cette dimension.
Et il y a une chose, c'est que je parlais avec une amie romancière qui a publié son premier roman chez Gallimard, un roman que j'aime beaucoup, donc qui s'appelle Céline Navarre. Et je disais, mais nous, les gens de lettres, les auteurs, on passe 95% de notre temps à gérer du découragement. Et on passe 5% à écrire qui efface la douleur du découragement. Quand on écrit, on a oublié. Et finalement, durer, c'est justement arriver à passer les étapes de découragement où il ne se passe rien et où on a conscience. Ben c'est comme Boileau, tout a été dit, quoi. Donc, en fait, que dire quand il y a eu... Nous, par exemple, sur le roman, il y a eu Hugo et Aragon. Mais qui suis-je pour arriver à oser essayer de publier deux lignes? Mais en fait, c'est mal poser le problème. En fait, vous vous exprimez parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Moi, demain, l'expression artistique disparaît. D'avoue, je me jette par la fenêtre. Mmh. En fait, vous ne pouvez pas faire autrement, surtout. Mmh. Vous êtes dans cette cage dorée et... Moi, je pense que les comparaisons, en fait, moi, je suis complètement d'accord avec toi. La comparaison, par exemple, entre Jean-Baptiste et Léo, c'est l'intention, c'est le moteur. Après, quelle que soit la forme que ça prend, moi, je suis sensible à l'intention. C'est-à-dire que si un artiste, par exemple, qui publie quelque chose qui n'est pas forcément... Alors, moi, j'aime pas enfermer les choses dans les mots, paradoxalement, pour un homme de mots, mais quand même, la notion de chef-d'œuvre... Si dans ses intentions, dans la façon dont il a travaillé, ce qu'il a fait est bien et propre et généreux, ça me va.
Bien sûr.
Moi, j'aime de la petite variette. Mmh. Moi, il y a des petites chansons de variette que j'adore et que Léo adorait aussi. Moi, j'ai vu une interview que j'ai passée d'ailleurs par mail à Jean-Baptiste. C'était Léo qui discutait avec Sylvie Vartan chez Guy Lux.
Ah ouais.
J'étais complètement stupéfait, mais il a accepté de faire ça. Et Léo, il est jamais pris dans la contradiction quand il fait des choses comme ça. Pour lui, c'est pas contradictoire, c'est un homme vivant. Il juge personne. Et d'ailleurs, il était absolument charmant avec Sylvie Vartan. Moi, j'adore Sylvie Vartan parce que c'est une très belle âme. Elle a vraiment quelque chose. Bon, elle s'en est tenue à son univers. Bon, on aime ou on n'aime pas. Et voir Léo... En plus, il faut voir, parce que comme il y avait le... Si tu ne l'as pas vu, je te le repousserai.
Avec plaisir.
Léo, qui vraiment très sincèrement la regardait avec beaucoup d'affection, parce qu'elle avait fait le Palais des Congrès avant qu'il y passe. Mmh. Et donc, il parlait de la scène. Alors, elle lui disait qu'elle était triste parce qu'elle avait dû renoncer, parce que c'était la fin de sa série de représentations, mais qu'elle était heureuse que ce soit lui qui lui succède.
Ah, il prenait la suite directement.
Oui, c'est ça. Ouais,
d'accord.
C'était la programmation.
Oui,
de...
bon, pourquoi pas.
Voilà.
Oui,
ouais.
Oui, parce qu'au moment où il fait le Palais des Congrès, c'est pour jouer essentiellement des œuvres classiques, quand même, Léo.
C'est ça, parce que d'ailleurs...
Oui,
Davout, t'as tout à fait raison, parce qu'il parlait de ça, d'ailleurs. Il parlait de la nécessité des ajustements techniques à la salle pour que le son de l'orchestre soit valorisé. Donc,
d'accord.
Ils avaient une petite discussion comme ça de professionnel, et c'était chez Guy Lux, qui est un personnage redoutable, la caricature du showbiz, la bande de copains et tout ça, ce que Léo vitupère dans beaucoup d'œuvres, et pourtant il l'a fait.
Justement, on va parler de Léo, si tu
oui.
veux bien. Il y a une question traditionnelle un peu dans cet entretien, lorsque démarre cet entretien, je demande à mes invités... Comment est-ce qu'il définirait Léo à quelqu'un qui ne le connaît pas et qui te demanderait qui il est ? Question vaste.
Oui, question vaste. Alors, je vais faire mon consultant, d'avoue. Moi, je fonctionnerais en entonnoir, c'est-à-dire que je le situerais. On l'a situé. C'est très réducteur, mais c'est bien de situer aussi. Puis après, on peut descendre dans les détails. Il a été considéré comme un des 4 ou 5 grands auteurs, compositeurs, interprètes, poètes du monde de la musique et de la chanson dans la deuxième partie des années 50, même s'il a commencé plutôt dans les années 40. Donc, on l'associait en termes de, on va dire, de qualité, d'ambition artistique. On l'associait à des gens comme Brassens, Brel, Barbara. des gens aussi moins connus et qui ont accédé à une à moins de notoriété, mais qui sont... Qui, alors évidemment, il y a toujours des inconnus à la richesse infinie, et on se désole qu'ils aient pas pu toucher plus de gens, mais peut-être que ça viendra un jour. Il y avait Mouloudji, il y avait Scudero, on parlait de Ange tout à l'heure. Bon, Ange avait quand même une grande notoriété. Mais s'il fallait le situer, c'est vraiment dans les cinq grands. Après, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que ça, ça correspond au moment où il a accédé à une notoriété. Il était déjà, notamment dans la période où on lui avait dit « Non, non, mais c'est pas la peine de chanter ». Donc là, il était uniquement auteur-compositeur. Et alors après, c'était quand même Gréco et Catherine Sauvage qui chantaient ses textes. Hein, donc c'était pas oui. non plus...
C'était pas n'importe qui non plus.
Exactement. En ouais. plus, c'était déjà à la fois, comment dire, il pouvait être simple, mais faussement simple dans des œuvres, donc qui après ont été beaucoup réinterprétées comme Paname, Joli Môme, mais qui sont faussement simples évidemment quoi. C'est comme une belle montre, vous savez, quelquefois en fait le cadran est il a l'air de rien comme ça, et puis au fond, vous avez un mécanisme qui est d'une grande précision et d'une grande richesse. Et après, quand lui-même est arrivé à la notoriété, après des virages extrêmement tortueux et une vie difficile, parce que lui, il a eu faim, hein, on est d'accord. Hein. Du coup, cette notoriété l'a mis dans une classification, mais en même temps, ça faisait déjà des dizaines d'années, quand on voit qu'il a composé, il était adolescent quand il a composé sa première... Alors moi, je suis pas un spécialiste de la musique. Hein.
Non, mais t'inquiète pas, il y a personne n'est spécialiste ouais, ici, d'accord. Donc on parle entre amateurs, voilà. Pas de soucis.
Mais j'ai cru comprendre qu'il avait composé un mini-opéra quand il avait, je sais pas, entre 11-12 ans, ou en tout cas très très jeune... quand il chantait dans les chœurs. Moi, j'adore sa voix, Ferré. La voix de Ferré, c'est comme... Pour moi, j'entends la voix de Ferré, c'est comme si un aigle me donnait ses ailes auxquelles s'accrocher et m'entraîne dans les limbes. C'était une voix d'une puissance et d'une profondeur qui vous emporte, mais sans vous encombrer. Et d'ailleurs, pour moi, l'œuvre de Ferré, il est tellement généreux qu'il n'est jamais écrasant. Franchement, moi qui écris deux romans en parallèle, et je savais qu'on allait discuter, j'aurais pu rester comme ça, complètement anéanti sur un fauteuil en me disant « Oh tiens, en fait, j'avais oublié qu'il y avait eu Ferré, mais qu'est-ce que j'ai à écrire, moi, des choses ?» Pas du tout. En fait, c'est des gens qui vous encouragent à être vous-même. Léo Ferré, c'est quelqu'un qui s'assume. Et qui s'assume, d'ailleurs, c'est ça être un artiste, c'est s'assumer. S'assumer dans tous les sens du terme. Évidemment qu'on va l'évoquer, l'aspect sociétal, l'anarchie, mais pas que. C'est quelqu'un qui assumait tout. Dans l'amour, dans la sensualité, dans son amour des autres, c'est quelqu'un qui s'assume. Et d'ailleurs, ces volets de bois vert ne vous cassent pas les reins, elles vous emportent. Moi, j'écoute psaume 151, mais je voudrais qu'il soit là pour qu'il nous fasse un miserere Seigneur du fond de tes algorithmes. Je me dis, mais le pauvre, il serait vivant, ouais. Mais... Ces magnifiques cheveux lui en tomberaient sur les épaules. Ça, hein ouais. On vit dans un monde d'une vulgarité, mais crasse, quoi. C'est vraiment horrible, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il en ferait, quoi? Comment il s'en débrouillerait? Je suis bavard, vous
excusez-moi, mais c'est vraiment passionnant. Non, je t'écoute avec grand plaisir, parce que les mots qui te viennent sont très intéressants. Et moi, j'aime bien, justement, aller comprendre, aller voir les mots qui sont choisis au moment où on parle de Léo.
Oui.
Et là, vraiment, le personnage qui s'assume et qui nous pousse à être nous-mêmes.
Oui.
Moi, je me reconnais parfaitement dans cette définition, dans cette élaboration de définition.
Ouais. C'est vrai, toi, tu la partagerais aussi
avec d'autres mots, mais ce qui m'intéresse, ce sont les mots de Francis Vuillier, en l'espèce, voilà.
Oui.
Pour tout
bagage. On a 20 ans, on a l'expérience des parents. On se fout du tiers comme du quart. On prend le bonheur toujours en retard. Quand on aime, c'est pour toute la vie. Cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean. Et pour le reste, on imagine. Pour tout bagage, on a sa gueule. Quand elle est batte, ça va tout seul. Quand elle est moche, on s'habitue. On se dit qu'on est pas mal foutu. On bat son destin comme les brèmes. On touche à tout, on dit je t'aime. Qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort. On meurt souvent et puis l'on sort. On va griller une cigarette. L'amour, ça se prend et puis ça s'achète. Pour tout bagage, on a sa gueule qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du dedans. Ça fait parfois un de ces boucans. Pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marron, on passe à l'examen de minuit. Et quand on pleure, on dit qu'on rit. Pour tout bagage, on a 20 ans. On a une rose au bout des dents qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir. Quand on aime, c'est pour tout ou rien. C'est jamais tout, c'est jamais rien. Ce rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace quand on est seul. Qu'on ait été chouette ou tordu, avec les ans tout est foutu. Alors on maquille le problème, on se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime. Et en cherchant son cœur d'enfant, on dit qu'on a toujours 20 ans.
Avec Francis Vuillet, aujourd'hui dans le Ferry Club sur Radio Libertad 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste. Parmi les noms que tu citais il y a quelques instants, tu as donné les noms de Mouloudji et de Lenny Escudero. C'est des gens qui comptent aussi pour toi ?
Alors, je connais peu leur œuvre.
Ah, d'accord.
Mais j'ai été surpris au détour d'une proposition de mon algorithme, de pouvoir découvrir certaines de leurs œuvres et de m'être aperçu que, effectivement, leur notoriété, ou quand on dit notoriété, ça peut être une question de postérité. On n'a jamais vu une spéciale Mouloudji en hommage. À son œuvre, là où on en a eu pour Brassens, Brel, moins Ferré. Mais j'étais vraiment étonné par, là encore, par ce qui animait cet homme. Et puis en plus, il est aussi représentant de Saint-Germain-des-Prés, de tous ces petits cabarets où les gens, vous aviez en fait des auteurs, compositeurs, interprètes qui faisaient quatre cabarets dans la nuit pour gagner 3 francs 6 sous.
Bah oui.
Il faut vraiment être animé d'une foi, indéfectible. Mmh. Escudero, c'est peut-être pas pareil, c'était un petit peu plus tard, on était dans les années 70. Il faut voir aussi que les destinées des artistes ont beaucoup suivi l'évolution de l'industrie musicale, qui est en perpétuel changement. Parce que quand Léo, là par exemple, quand il était chez Barclay, c'est au moment où par exemple les disques ont commencé à être distribués dans les supermarchés. Ça a tout changé. En fait, le réflexe d'achat, vous alliez plus, vous habitiez, parce que c'était quand même avant le gros exode rural, si vous entendiez à la radio un titre qui vous plaisait, quelquefois il fallait prendre la voiture, il fallait faire 15 km pour aller dans la première ville qui avait un magasin de disques, un disquaire, chez qui, adolescent, on passait des heures dans l'odeur du vinyle, c'était merveilleux. Donc, c'est pas la même chose qu'aller au supermarché, les supermarchés étant en plus, c'était le rêve des 30 Glorieuses, on allait au supermarché par loisir. Et du coup, vous étiez enfant, vos parents savaient que vous vous ennuyez, ils vous laissaient devant les disques, et puis vous regardiez les disques comme ça.
Ouais, c'est vrai.
Donc l'exploitation en fait de la, il faut bien parler d'exploitation, quoi, parce que c'est quand même une industrie extrêmement brutale. a aussi accompagné. Donc il y a eu et puis après on a eu notamment quand le modèle MTV est arrivé au début des années 80, on a associé l'image, on a vendu de la musique avec de l'image. Tout ça, vous avez eu une force centrifuge, vous avez eu toute une partie des auteurs-compositeurs-interprètes ou compositeurs-interprètes ou auteurs-interprètes qui ont été complètement balayés. Donc des gens en fait de grande qualité. Qui arrivaient encore à bien vivre de leur métier, et notamment grâce à la scène, qui tout d'un coup ont complètement disparu. C'est-à-dire que l'eau va jusqu'à la butée, donc en fait l'image a tellement envahi le monde de la musique qu'il n'y avait plus de place pour eux. Du coup, les programmateurs, évidemment, suivaient le courant et ne les diffusaient plus. Marie-Paul Bell, par exemple. Marie-Paul Bell, qui elle travaillait avec deux paroliers qui étaient des romanciers, qui étaient Françoise Mellé-Joris et Michel Grisolia, qui est devenu un... Alors, c'était un ami d'enfance, hein. Ils désespéraient leurs parents parce qu'ils faisaient des petits spectacles quand ils avaient 7 ans et ils écrivaient des chansons réalistes.
Ah oui.
Alors les parents disaient, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que ces enfants nous parlent des orphelinats et des morts? Oui. Ils devraient penser à autre chose et tout ça. Elle leur raconte, elle a un humour fou. Et donc, quand elle est venue à Paris, parce que pareil, elle était animée d'une grande foi, elle était uniquement compositrice, elle était pianiste, uniquement, entre guillemets, je veux dire, c'est pas elle qui écrivait ses textes.
Oui, elle était interprète également, bien sûr.
Exactement. Et c'était eux qui lui, donc c'était Françoise Mellé-Joris et Michel Grisolia qui lui écrivaient ses textes, mais c'est des petits bijoux, c'est beau. D'ailleurs, on n'est pas loin de Ferré. Il serait là, on pourrait lui demander, au fait, qu'est-ce que vous avez pensé de la petite Marie-Paul Bell quand elle est arrivée là, avec ses petites chansons apparemment sautillantes, mais qui avaient l'air de rien. Et parce que derrière la simplicité, il y a une beauté, quoi. Moi, j'aime beaucoup la simplicité. En voiture d'Aaron, mon roman n'est pas simple. Maintenant, j'écris de façon, parce que quitte à écrire, autant aller explorer, en fait, plein de choses. Mais je trouve que la simplicité en dessous de laquelle il y a une mécanique comme ça qui se voit pas, on parlait tout à l'heure des montres, ça me touche beaucoup. Et donc des gens comme Marie-Paul Bell disait, un jour elle a sorti un album, elle a vu elle rencontre un programmateur de radio qui est un vrai ami, elle dit déjà c'est un vrai ami parce qu'il a écouté tout l'album, et à la fin il lui a dit écoute, ces chansons, elles sont top. Moi, j'adore les musiques, les textes, mais où est l'événement?
Ah oui,
je peux pas te programmer. Ah ouais, il lui a dit ça.
Ouf.
Elle l'écrit dans un livre. Hein. C'est pas une petite ressucée d'un faux site internet créé par l'IA. Hein. C'est elle l'a écrit noir sur blanc, quoi.
Ah bon, ça doit être violent de se prendre ça dans la.
C'est ça.
Dans l'esprit. Hein,
Ouais.
Avec Francis Vuillet aujourd'hui, dans le Ferré Club sur Radio Libertaire, nous allons parler de Léo. Nous avons commencé à parler de Léo, mais la question que je vais te poser maintenant, c'est de savoir comment est-ce que cette œuvre est arrivée jusqu'à toi. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à écouter du Léo? Comment est-ce que tu as fait sa connaissance?
Oui, alors évidemment, comme tout le monde, je connaissais ses chansons les plus célèbres.
La vitrine, on va dire, cet extra
Exactement, cet extra. Que j'ai redécouvert interprété par Jean-Baptiste, il en a fait une version d'une sobriété, j'ai adoré. Cet extra, Joli Môme, et bien sûr Avec le temps. D'ailleurs, les reprises de ces chansons les plus connues, je les ai toutes trouvées intéressantes. Notamment, on aurait pu se dire quand même, ben là c'est pareil, hein, c'est quand même un drôle de... Enfin, en tout cas, c'était inattendu que Dalida reprenne Avec le temps. Et Dalida, quand elle chante en direct, c'est-à-dire sur scène, Avec le temps, et le sort qu'elle fait à une phrase comme « Les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. » J'en ai encore les poils qui se dressent. Tellement la simplicité dite chose, d'empathie, d'amour des gens, avoir écrit cette phrase quand on est Léo Ferré. Et quand vous avez un interprète qui vous la restitue à sa façon, en roulant les airs à la garriche farfouille, c'était pas facile à dire. Donc c'est, en fait, c'est bien aussi que justement des gens aient mis à leur répertoire des œuvres de Ferré. Pas assez pour moi, mais en même temps, c'est pas étonnant. Mais au moins, on avait quelques morceaux qui pouvaient permettre aux gens une petite porte comme ça. Oui, tiens, j'ai entendu Avec le temps, qui a été reprise d'ailleurs par Jane Birkin dans une série de concerts. Pareil, elle avait sa façon de l'interpréter. Si au moins il y avait une personne qui avait été captivée par au moins une phrase et se soit dit « Mais c'est qui ce Lou Ferré ?» C'est vrai, parce qu'en plus, à l'époque, on ne peut pas dire que les médias, évidemment, ils avaient des rapports qui étaient quand même houleux ou faits de haut et de bas.
Oui.
Du coup, ils ne pouvaient pas compter sur les médias pour continuer à le faire connaître. Donc, s'il y avait comme ça une tête de ponte qui pouvait... Venir interpréter ses œuvres, c'est bien.
Parler de lui, quoi, d'une certaine manière.
Oui, c'est ça. Donc, je connaissais, en fait, ses œuvres. Et je ne sais pas à quel moment j'ai eu un choc esthétique, d'avoue.
Sur une chanson en particulier, sur un album, sur comment est-ce qu'il s'est opéré, ce choc esthétique?
Alors, il y a eu un album, c'est Amour Anarchie. Amour Anarchie, et pas uniquement le volume 2, parce qu'en fait, j'avais une... à l'époque, en fait, Barclay avait réédité une anthologie des morceaux dont il avait les droits. C'était sur fond, on aurait dit, un peu du marbre, avec une photo.
Oui.
C'est dans les années... Fin des années 80,
ouais.
Oui, c'est
d'accord.
Ça.
Et alors, il a sorti à ce moment-là, chez Barclay, est sorti à ce moment-là une intégrale, un pavé avec 9 CD ou 11 CD, 11 d'ailleurs.
Eh bien, c'est ça.
D'accord.
Oui. À l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent. J'étais objecteur de conscience, et j'avais plein de petits boulots pour avoir une vie à peu près décente, et dès que j'avais 100 francs à l'époque, 10 000 francs, j'achetais ça. Et je me suis acheté en fait cette collection.
D'accord.
Et c'était pour moi, mais je bandais en l'achetant. C'était pour moi, c'était un trésor, et j'y suis allé petit à petit, comme ça. Et j'avais un voisin anglais. Ah, j'avais de la chance parce que donc j'étais en colocation avec une amie à moi, et c'était 4 immeubles très bas autour d'une cour intérieure, et ce qui fait que les gens se croisaient tout le temps. C'était comme Escalier C de Takela, le film ou le livre. Et on avait une chance, c'est qu'on était tous amis réellement, sans se marcher sur les pieds. Et puis, sont arrivés un couple. Lui, il s'appelait Ian. Il était britannique. Et sa femme ne l'était pas du tout. Elle s'appelait Patricia. Une femme du houdou. Et on a sympathisé avec eux. Et lui était traducteur. Alors, il était vraiment so british.
Oui.
Il était traducteur, donc il connaissait très bien le français, et il était fan de Ferré.
D'accord.
Il était fan de Ferré, et il avait une collection de whisky, d'avoue, d'une qualité. Et quand on faisait des soirées, peut-être on faisait la fête, et à un moment, à 2h du matin, Ian me regardait comme ça, avec son petit air d'anglais, là, et puis il me disait... un petit Ferré, Francis. Et là, ces dames se retiraient.
Ah oui?
Oui. Comme au 19e siècle, laissons les hommes...
Mais pourquoi? Parce qu'il était tard ou parce que ce propos ne s'adresse pas forcément aux femmes? Qu'est-ce que je dois comprendre?
Mais quelle bonne question, d'avoue. Parce que moi, quand je... Donc là, j'ai eu vraiment... À un moment, alors ça, par contre, je situe pas. Mais j'ai eu un choc esthétique comme je n'ai jamais eu avec aucun... aucune personne de la chanson. Je l'ai eu dans la littérature, mais pas dans la chanson, même si j'ai beaucoup, j'ai toujours été passionné, évidemment, de musique. Mais à partir du moment où ça s'est, où cette passion s'est décrochée, elle a été immense, entière. Mais pour autant, c'était circonvenu. J'écoutais pas du Ferré toute la journée. Je me suis pas perdu dans son œuvre. Mais par contre, à chaque fois que j'écoutais une œuvre de Ferré, c'était une extase en fait complètement unique. Et j'ai eu des amis. En plus, moi, j'étais environné de gens. Bon, déjà, on vivait en meute, on faisait du théâtre, toujours chez les uns, chez les autres, et tout ça. Un univers extrêmement fraternel, des gens cultivés, instruits, ouverts sur la musique, mais qui étaient plus. Et d'ailleurs, moi aussi, quoi. On écoutait à l'époque, c'était Jonas, Lavilliers, où il y a quand même déjà un peu de révolte chez Lavilliers.
Oui.
C'était des artistes comme ça, donc des artistes en fait de qualité. Et quand moi j'ai commencé à écouter Léo Ferret, un jour il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais Francis, on peut te le dire maintenant, tu nous as fait un peu peur.
Ah, à ce point-là, d'accord.
Ferret Club sur Radio Libertaire.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, c'est très bien. S'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ces gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Comme traînent les chiens avec le temps. Va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Se sent glacé dans un lit de hasard et l'on se... avec le temps, on n'aime plus.
Je peux en revenir à Yann ?
Oui.
Et aux femmes qui vont se coucher ?
Oui, oui. Alors, c'était assez curieux parce que, effectivement, Patricia et André, mon ami s'appelait André, alors, elle respectait complètement notre amour pour Léo. Je suis pas sûr qu'on avait tenté de leur faire partager à ce point-là. Mmh. Ou peut-être que on voulait pas les obliger, on voyait qu'elles étaient pas spécialement emballées. Après, je pense que c'était devenu un running gag. Oh, mais ils vont encore écouter Léo.
Ouais, donc c'était assez régulier quand même pour que c'est...
Oui.
D'accord.
C'était quasiment un petit cérémonial. Et alors moi j'ai des souvenirs extrêmement vivaces, c'est comme si c'était hier, d'avoue.
Ouais.
On était en Franche-Comté, donc à Besançon, des hivers très rigoureux, de la neige. On avait bien mangé, bu un bon coup de blanc. On avait passé la soirée à rire, à se raconter plein de choses. Une soirée très très chaleureuse. Et puis après, quand nous, on sortait... en plus, Yann, il avait les 33 tours en vinyle. Il en choisissait un. On se pétait la ruche au whisky. Il nous trouvait des whisky absolument extraordinaires. Et là, on comprenait enfin... La quatrième strophe du psaume 150. Ouais. Parce qu'on ne comprenait pas tout. Et là, on était... une expérience, je dirais... je ne sais pas si on se l'est dit, lui et moi, mais mystique. Mystique et surtout... c'est maintenant, c'est avec ton écoute si attentive et affectueuse d'avoue que je le découvre. C'est que... C'est différent que quand on écoute tout seul. On ne se parlait pas, hein. On était les plus heureux des hommes, affalés dans un canapé. Et on a découvert... Alors justement, on était sur la fameuse anthologie Barclay. Donc on était plutôt sur cette période-là. Mmh. Moi, je connais moins quand même les années 50, à part les tubes qu'on évoquait.
Oui.
Mais cette période-là, est en même temps, c'est celle où, du point de vue des convictions, de l'anarchisme, il y a des volets de bois vert qui sont extraordinaires.
Bien sûr.
Et c'est comme ça qu'un jour est arrivé « Ne chantez pas la mort ».
Oui.
En plus, c'est incroyable, quoi. Cosimo, quand même, d'ailleurs, qui se faisait appeler Cosimo au générique de ce film avec Fernandel et Françoise Rosay, un film macabre. Non, très très drôle, ils avaient caché d'ailleurs à Fernandel qu'il y avait des gags L'Auberge Rouge.
D'accord.
L'Auberge Rouge, en fait, Cosimo jouait dedans.
D'accord.
Et il n'y avait pas ces deux prénoms. Il se faisait appeler, comme souvent d'ailleurs les artistes dans les années 40-50, il y avait juste leur nom de famille, hein, Rému, etc. etc. Et il jouait dedans. Et c'est une comédie macabre, féroce. Fernandel, lui, était catholique. Il comprenait pas tous les aspects, l'humour anticlérical qui émaillait certains passages. Et il y avait déjà Cosimo. Cosimo, le Lord Marc Ashley de Fantomas contre Scotland Yard, qui écrit « Ne chantez pas la mort ». Alors déjà, j'ai l'impression de partir dans le... dans la quatrième dimension,
oui, quelque chose
d'irréel, pas comprendre, ouais. Ouais. C'est un clone.
Ouais.
Et ne chantez pas la mort, alors là c'est encore d'autres expériences de partage.
Alors, découverte avec Yann pendant ces soirées de whisky.
Oui, oui.
Ouais.
Oui. Mais je me souviens très bien de cet album d'Amour Anarchie, qui après a été scindé en deux, mais ou avant, enfin bref, ça dépend des éditions.
Oui,
quoi.
Oui, bien sûr. Oui.
Oui, oui.
Et puis avec le travail qu'a fait Barclay pour... dézinguer tout l'ordre des disques, ça n'a pas aidé non plus.
Dis-moi bon, ça, excuse-moi, je ne connaissais pas.
Non,
oui, qu'est-ce qu'il a fait
lorsque cette intégrale sort, et c'est fait avec le choix, enfin, que, avec l'accord de Léo, un certain nombre d'albums sont éclatés et des titres sont remis comme ça les uns après les autres. Alors c'est vrai que c'est l'apparition du CD qui permet à ce qu'on ait un support physique qui contient davantage de musique que n'en contenait le vinyle. Oui. Donc effectivement, ça permet aussi de faire ça, mais ça éclate les disques. Ils vont disséminer les chansons principalement de la trilogie Amour-Anarchie, La Solitude, Il n'y a plus rien et L'Espoir, donc la quadralogie en espèce. Mmh. Les titres sont comme ça disséminés sur différents albums et on perd l'intégrité des albums. Donc voilà, c'est ce qui s'opère à ce moment-là. Si
tu veux dire donc que c'est plus forcément l'ordre dans lequel ils avaient été publiés.
Exactement, c'est non seulement plus l'ordre, mais c'est même quasiment, parfois j'exagère peut-être un tout petit peu, mais il y a carrément des albums qui sont reconstitués de bric et de broc avec une cohérence chronologique. C'est-à-dire qu'on va regrouper des chansons, bien évidemment, à peu près de la même période, mais effectivement, les albums sont... on oublie le concept des albums originels.
Et Léo avait un droit de regard,
Sa complicité. Ouais. Apparemment, oui. Il a été OK là-dessus, quoi.
Oui, parce qu'avec le recul, j'ai pas le souvenir de boursouflure. Parce que tu sais, souvent, quand c'est comme ça, quand une compilation, quand une organisation des titres est mal faite, parce que c'est pas l'ordre originel.
Ouais.
En fait, ça sent, quoi. Tu vois bien, quoi, que c'est des périodes qui sont pas les mêmes, ou c'est pas les mêmes studios d'enregistrement.
Tu as raison. Mais ouais. Non, l'espèce, il y avait une cohérence quand même dans la façon d'enregistrer, parce que
c'est. Oui, moi je trouve que c'est bien fait.
Ouais, bien sûr.
Ouais. Toi, du coup, d'avoue, tu as rencontré l'œuvre de Léo avec cette fameuse anthologie.
Oui. Avec le. C'était une intégrale avec 11 CD. Et effectivement, moi, je suis rentré dans cette œuvre. Pas tout à fait. J'ai commencé par un double album au TLP. Mais ensuite, vraiment, j'ai fait connaissance de l'œuvre de Léo avec cette intégrale, oui.
D'accord.
De la même manière que toi.
Mais alors, dis-moi, cette intégrale, est-ce que Barclay avait racheté, en fait, des titres Non,
c'était l'intégrale des années Barclay.
C'est ça, on est d'accord. Ouais. Hein.
Donc il n'y avait pas tous les disques d'avant chez Odéon, il n'y avait pas tous les disques d'après chez CBS, RCA et EPM par la suite.
Oui.
Non, c'était vraiment que les années Barclay entre 1960 et 1974.
D'accord.
Mais alors qu'est-ce que vous écoutiez avec Ian alors? Au-delà, tu me parlais de Ne chantez pas la mort.
Alors, Alors ça, c'était pour moi, ça c'est mon... D'ailleurs, en fait, je peux pas l'écouter tout le temps. Parce que si je l'écoute, je mets une heure à m'en remettre. Pas de tristesse, de stupéfaction. Ne chantez pas la mort. Alors, découvert avec Ian, donc on est bien d'accord pour les auditeurs. Tout le monde a bien repéré, la Franche-Comté, on a bu un petit coup,
whisky,
on a notre whisky et tout ça. Un luxueux salon. Et là, les premières mesures, la voix de Léo, avec le texte parlé au début, après les premières notes de musique, et après les envolées symphoniques. Alors, bien sûr, la première phase, un choc esthétique, mais comme c'est incroyable, pour moi, c'était la chanson définitive. Il y avait tout. La voix, l'arrangement, le texte, l'interprétation, les variantes de la voix de Léo, le relief dans l'orchestration entre les envolées et quand ça fait semblant de retomber, que ça remonte après, où tout se met en valeur, pour moi, c'était une expérience mais esthétique que j'avais jamais connue. Et j'ai tellement aimé, c'est même pas aimé, mais souvent les mots nous échappent avec Léo, on a l'impression qu'ils sont tous réducteurs. Mais j'étais tellement scotché, quoi, c'est le cas de le dire, scotché au whisky. Là, on n'avait pas besoin de whisky pour le savourer. Psaume, quand même, des fois, là, j'ai encore relu, j'ai pas encore tout compris.
Tant mieux, peut-être. C'est bien de ne pas comprendre.
Mais je suis complètement d'accord avec toi. Tu dis un jour qu'on comprendra.
Oui. Ou pas, et puis tant mieux.
C'est ça.
Les mots suffisent parfois. Hein. Le sens, oui, mais il y a les mots avant.
Oui. Non, mais je partage complètement ce que tu dis. En fait, c'est vraiment ça. Ce qui est bien être fidèle à Léo, de pouvoir accepter ses propres limites à soi. Dire, ben oui, je comprends pas, mais tant pas, peut-être un jour, et puis peut-être pas, et puis c'est pas grave.
Bien sûr, oui.
Déjà, avec tout ce que je reçois, je n'ai pas encore fait la fine bouche.
Oui, et puis on peut prendre du plaisir dans la découverte sans vraiment comprendre le sens précis. Si les mots se suffisent en eux-mêmes,
exactement.
La mémoire et la mer, il y a des tas de choses qui nous échappent, et pourtant, on adore cette chanson.
Alors là, c'est un autre aspect, parce qu'on était parti de la question s'il fallait présenter Léo
à
quelqu'un. C'est un tel maître du verbe, c'est un amoureux du mot, entre ses néologismes. Sa poésie, quoi. Jamais, moi, j'ai vu des mots juxtaposés avec une telle justesse, une telle audace chez aucun autre artiste, sans doute dans la poésie. Alors moi, par contre, je ne suis pas un spécialiste de la poésie. Par contre, la poésie, elle m'a toujours été transmise plutôt par les gens qui la chantaient. Ferrat, quand il a chanté Aragon... Reggiani, quand il a chanté... par exemple, tout à l'heure, on parlait en fait des grands. Reggiani, par exemple, lui, il composait pas, il écrivait pas. Mais il avait une équipe qui était tellement homogène, on avait l'impression que c'était lui l'auteur, compositeur, interprète.
Oui,
on aurait pu le mettre en termes de qualité. Oui. En fait, c'est là où c'est toujours embêtant. On fonctionne par cercle concentrique, quoi. Mais donc, Reggiani, sa voix, dès qu'on entend sa voix, on est... Alors là, c'est pas pareil, on est triste.
Ouais. Oui, mais enfin, ouais.
Moi, Léo, il me rend jamais triste. Il me choque.
Oui.
Non,
ouais.
Jamais. Mmh. Il me choque. Il vivifie la moindre de mes cellules intellectuelles, sensuelles. Mais il me rend jamais triste. Et en plus, le fait qu'un tel être humain existe, pour moi, ça me suffit. La façon dont il manie le mot, son amour du mot, son respect du mot, son utilisation du mot, elle lui est propre. Elle est incomparable. À bien des titres, il est incomparable. Mais on peut aussi dire que chaque artiste est incomparable. Et ça, moi, je veux bien. Moi, je déteste ça, la comparaison. De toute façon, le néolibéralisme et le néofascisme crasse dans lequel on nous enveloppe chaque jour un petit peu plus, qui, encore une fois, le pauvre Léo, mais je ne sais pas ce qu'il deviendrait s'il atterrirait là, tout d'un coup, on lui dirait, allez, finalement, revenez juste 5 minutes, voir ce que le monde est devenu, mais j'en serais malheureux pour lui, quoi. Ouais. Mais une telle utilisation en fait du mot unique avec cette intensité, le fait qu'en plus en 50 ans de création, et encore là on n'est que sur l'œuvre qui consiste à écrire des chansons soit pour les autres soit pour soi, on parle même pas de quand il dirigeait des orchestres, quand il écrivait lui-même des poèmes, son autofiction, on parle vraiment en fait uniquement dans la chanson. En plus, ça a toujours évolué, quoi. Il s'est jamais il s'est soit auto-parodié, soit arrêté comme ça. En ce qui concerne l'anarchiste, moi j'ai été très surpris de découvrir qu'il avait été, il s'était découvert anarchiste de pré-ado, quoi. Hein. C'est pas du tout quelqu'un qui est devenu aigri puis qui s'est dit, bon, tu vois, je voulais dire que je suis anarchiste, ça va bien m'aller, après tout, et on va faire du commerce avec, quoi. C'était un vrai anarchiste. Et quand même, là, on peut en arriver à Aragon, puisqu'on avait parlé d'Aragon.
J'aimerais bien terminer avant d'aller à Aragon, j'aimerais bien que qu'on finisse ces soirées avec Yann.
Ah oui.
Est-ce que tu te souviens d'autres découvertes, à part Psaume 151, à part Ne chantez pas la mort? Est-ce qu'il y a d'autres chansons ou d'autres œuvres qui te sont arrivées à ce moment-là avec lui, dans ces moments de partage?
Cette blessure, Richard.
Ouais. Richard, bah, qui va bien avec les circonstances, quoi. Hein.
Ouais. Je me rappelle avec Yann, dans ces soirées, tout nous faisait vibrer, c'est-à-dire une intonation. C'est bien dans Richard qui dit « Richard ».
C'est dans Richard qui dit Richard.
Avec cette voix
c'est bien le cas. Ouais.
Et à chaque fois, ça change. Et nous, on trouvait ça... Rien que ça.
Oui, bien sûr.
Tout était... Chaque note... Et après, sur le fond, alors... plus... c'est drôle. Ça fait tellement de temps que je n'y ai pas pensé, d'avoue. Ça me fait plaisir d'y revenir à ces souvenirs. Je suis pas sûr que sur le sur la vision sociétale, après, on jouait à deviser et à discuter. On savourait, on s'imprégnait. Je pense, moi, j'étais très jeune. Lui aussi, d'ailleurs. Je suis pas sûr qu'on avait conscience de... Si. Ah, si je dis ça, mais moi j'ai toujours été comme ça. Moi j'ai toujours savouré les choses, je pense, à une bonne mesure, mais... On avait conscience de la chance qu'on avait. De ces moments qui étaient complètement uniques. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que... André et Patricia ne nous cassaient pas les pieds. Elles trouvaient ça bien. Elles trouvaient ça bien et surtout, on ne les emmerdait pas. Après, on ne cherchait pas à les convaincre. Puis, on n'était pas devenus dogmatiques, chose qui aurait été quand même coupable par rapport à Léo.
Chantez pas la mort, c'est un sujet morbide. Le mot seul jette un froid aussitôt qu'il est dit. Les gens du show business vous prédiront le bide. C'est un sujet tabou pour poète maudit.
Je la chante et dès lors, miracle des voyelles, il semble que la mort est la sœur de l'amour. La mort qui nous attend et l'amour qu'on appelle, si lui ne vient pas, elle viendra toujours. La mort, la mort, la mienne n'aura pas, comme dans le Larousse, un squelette, un linceul, dans la main, une faux. Mes filles de 20 ans, à chevelure rousse, en voile de mariée, elle aura ce qu'il faut. La mort, la mort, de grands yeux d'océan, une voix de génie, un sourire d'enfant sur des lèvres carmin. Elle apaisera sur sa poitrine nue mes paupières brûlées, ma gueule en parchemin. La mort, Requiem de Mozart et non dans ce macabre, pauvre valse musette au musée de Saint-Saëns. La mort, c'est la beauté, c'est l'éclair vif du sable. c'est le doux pain total de l'esprit et des sens. La mort, la mort, et n'allez pas confondre et les faits et la cause. La mort est délivrance, elle sait que le temps quotidiennement nous vole quelque chose. La poignée de cheveux et l'ivoire des dents. Elle est euthanasie, la suprême infirmière. Elle survient à temps pour arrêter ce jeu.